nos lieux enchantés, une histoire mariant causerie, chansons et patrimoine.
Réalisé par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Mornantais.
Saint-André-la-Côte, c'est un village, le partage des eaux côté sud de la Méditerranée et donc l'Atlantique côté nord.
Une mémé m'avait dit que dans des temps très anciens, il y avait beaucoup de troupeaux d'oies. Et les oies en patois, ça se prononçait les ous.
Vous êtes plutôt des nounours, alors, c'est ça.
Ils sont adorables, mais alors faut franchir la barrière.
Alors là, moi, j'ai été enfant de cœur avec ce brave homme. Et c'est là d'ailleurs où j'ai appris à boire. Chapeau fléché, chapeau parfait. C'était des jeunes, hein, des jeunes gens qui ont combattu pendant toutes les années de guerre. Et malheureusement pour eux, la guerre étant finie, ils sont venus mourir à Saint-André-la-Côte. C'est quand même quelque chose. Hein.
Il les insultait en patois.
Les Allemands, pour lui, c'était pas des bons souvenirs hein, qu'il avait gardés de la guerre de 14.
C'est un petit village niché entre deux monts.
À deux pas de Lyon, le pays mornantais. Un plateau, des coteaux, un pays dans le pays.
Je suis Romain Lateltin, enfant du pays.
Et moi, je suis Théophile Hardy, enfant fraîchement adopté. Nous avons une mission. Explorer le pays mornantais, sa culture, son patrimoine, ses visages, ses paysages, pour trouver ce qui relie ces 30 000 âmes.
Nous allons causer avec les gardiens des histoires et légendes, ayant traversé le territoire et les années. Nous allons sillonner le pays pour capter sa vibration et tenter d'écrire des chansons qui racontent son histoire en musique.
Notre cap, le festival itinérant Nos lieux enchantés, qui invitera des artistes à chanter leurs propres chansons et celles du lieu, décor de leur spectacle. Pour vivre notre pays mornantais avec nos cinq sens.
Pour explorer ses couplets, traverser ses ponts et entonner ses refrains en chœur.
Pour en chanter nos lieux.
Bonjour, bonjour. Nos lieux enchantés prend de la hauteur aujourd'hui puisque nous sommes à Saint-André-la-Côte, commune blottie entre deux sommets qui offre aux visiteurs les plus courageux un des plus beaux panoramas sur tout le plateau mornantais, la vallée du Rhône et par temps clair sur la chaîne des Alpes. Michel, Gérard, Jocelyne nous attendent sur le perron d'une ancienne auberge pour nous livrer les trésors cachés de cette commune revigorante. Michel, Gérard, Jocelyne, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour les garçons.
Alors, est-ce que vous pourriez, pour commencer, vous présenter et nous dire, évidemment, ce qui vous relie tant à Saint-André-la-Côte ? Michel, tu peux commencer ?
Moi, c'est les vacances d'enfance, c'est-à-dire que nous étions une fratrie de 12 enfants. Et mon papa, nous étions à côté de Lyon, à Vaux-en-Velin, et mon papa avait trouvé, pour nous faire passer de bonnes vacances en plein air, une vieille grange dans ce village qu'il avait retapé et où nous venions à chaque vacances scolaires. Alors naturellement, mon papa avait une 15 commerciale, n'est-ce pas ?
Une
traction 15 commerciale. Et quand on ouvrait les portières de la 15 commerciale, le maire disait « ça y est, ça double le nombre d'enfants du village ». On était 12 à s'envoler de partout et nous étions heureux pendant toutes les vacances ici. Parce qu'on a créé des liens avec tous les gens qui étaient de souche. Et ces vacances d'enfance se sont transformées à la longue par un attachement beaucoup plus fort. Nous avons donc acheté des maisons les uns les autres. Et certains sont repartis et moi je suis restée.
Super, ça commence très bien Michel. On a des gens des temps forts. Gérard,
oui.
À toi.
Alors moi, pour moi, mon compte personnel, vous avez omis de dire aussi dans votre préambule que le Saint-André-la-Côte, c'est un village, le partage des eaux. Vous avez du côté, ce côté-ci, donc côté sud de la Méditerranée, et donc l'Atlantique, côté nord. Ça aussi, c'est important.
Tu sais qu'on commence à peine le podcast et qu'on va poser plein de questions, dont celle-là. Alors, mais présente-toi d'abord pour qu'on fasse connaissance un peu mieux avec toi.
Voilà, donc je m'appelle Gérard Reynard. Je suis donc natif de Saint-André-la-Côte, ce qui fait que je puis vous en parler de A à Z. Pour vous dire, à la Libération, en 1945, pour le 8 mai 1945, j'ai entendu sonner le tocsin, c'était donc pour la déclaration de guerre, mais pour la Libération, c'était la joie pour tous les villages de France et de Navarre. Ce qui fait que même ce jour-là, la cloche a sonné tellement longtemps qu'elle s'est fendue. Elle l'est encore aujourd'hui, mais elle continue toujours à sonner. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, pour des mariages, ça sonne pendant 10 minutes, alors que pour la Libération, elle avait sonné pendant des heures de temps. Voilà. Donc, enfin,
Exemple de ce que tu as vécu en étant natif de Saint-André-la-Côte.
C'est un ours, un vrai.
C'est un vrai ours.
Attendez,
regardez,
ils nous disent
si vous
déjà
regardez
tout.
Bien, vous voyez, allez.
Ah oui. Alors on y vient.
C'est
alors
la casquette des ours.
On va essayer de structurer un petit peu ce podcast. Je sens que ça va partir dans tous les sens. Alors Jocelyne, à toi maintenant de te présenter. Dis-nous alors, qui tu es et ce qui te relie à Saint-André-la-Côte.
Alors moi je m'appelle Jocelyne, je suis donc adjointe à la mairie. Et ça fait 35 ans que j'habite Saint-André-la-Côte. Ça a été un véritable choix de venir à Saint-André. Avant, j'habitais à Rivry. Et Saint-André correspondait à mes valeurs. Donc, j'ai trouvé ici vraiment le lieu, mon lieu.
Alors, merci. Moi, ce qui m'intéresse aussi, j'aime bien savoir qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie. Quel métier ?
Oula.
Michel.
Maman, mon papa était coiffeur. Donc... j'ai commencé naturellement à 15-16 ans. Hop, dès qu'il avait une de ses filles qui atteignait peut-être la fin d'une certaine scolarité à l'époque, hop, il la prenait, école de coiffure, il fallait venir aider pour nourrir toute la smala. La smala, c'est pas italien la smala. Toute la famille. Alors, donc j'ai été coiffeuse pendant quelques temps. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, il avait une petite entreprise et il a fallu donc l'aider. Donc, j'ai commencé à faire les factures, en plus de la coiffure, les factures, la comptabilité, le machin, tout ça. Donc, je me suis retrouvée à gérer la boîte. Et encore aujourd'hui. Ah. 50 ans après, aujourd'hui. Je suis encore.
Encore aujourd'hui, vous imaginez?
Voilà. Donc, j'ai fait un peu de tout. Voilà.
Eh bien, moi, j'ai fait aussi 36 métiers. Hein. Vous imaginez, depuis mon enfance. Hein. J'ai travaillé, je suis allé garder les vaches, pour commencer, dans les années 50, garder les vaches. Ensuite, après, donc, la scolarité, ça a été un peu, ça a été passé un peu de côté, hein, si vous voulez. Ce qui fait que les diplômes, aujourd'hui, on en a, mais c'est le certificat d'études, et puis ça s'arrête là, hein, point barre, hein, ça y est, donc. Et on dit qu'aujourd'hui, le certificat d'études, c'était peut-être l'équivalent du bac. Je sais pas, hein, mais bon, quelque part. Puis après, donc, ça a été l'armée. Mais avant l'armée aussi, des métiers de travailler dans la maçonnerie, travailler dans la ferraillerie, dans tout ce que l'on veut. Et après l'armée, bien évidemment, 18 mois d'armée. Ce qui fait qu'après, bon, et après, je suis reparti dans les déplacements de longue durée pour aller travailler.
Et Rivry, le restaurant?
Ah, ben après, c'est encore plus tard. Et après, donc, dans les années, en 1973, ma femme et moi, donc on a ouvert un restaurant qu'on a gardé jusqu'en 2016. Pendant 44 ans, on a été restaurateur à Iseron. Donc là, Iseron ne fait pas partie de la Copamo, hein. Vous le savez d'ailleurs. Donc on a été quand même, on était bien occupés. Hein. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça me manque beaucoup, hein, parce que le fait de ne plus ma clientèle, mes potes, mes amis, tout ce que l'on veut, bah, c'est quelque chose. C'est un manque. Hein. C'est pas un manque à gagner, mais c'est un manque tout court. Hein. C'est un manque personnel.
Alors, de cow-boy à tenancier de bar restaurateur. Voilà, nos amis d'Iseron qu'on salue parce que c'est vraiment un village.
Ah ouais. Bah, j'ai toujours une affinité à Iseron puisque j'ai quand même encore une maison à Iseron. Donc, ce qui fait que si je veux aller, si ma femme elle me quitte, peu importe, eh bien, donc il y a un pied à terre, voyez-vous.
En tout cas, Iseron, on est aussi un petit peu au perché. À Iseron,
ouais, c'est au perché. Ouais.
Un petit peu comme ce podcast-là, hein, qui s'annonce très au perché.
Ouais, c'est moins haut.
Ah, c'est un peu moins haut.
Mais la seule différence, c'est que dans les années 60, Michel et moi-même, on pensait que Saint-André-la-Côte, ça allait devenir un village très touristique, comme ça l'a été pour Iseron. Iseron, c'est devenu dans les années 60 un village très très touristique. Eh bien, Saint-André-la-Côte, eh bien non. Les Lyonnais ont boudé le village de Saint-André-la-Côte au profit d'Iseron, quelque part, si vous voulez. Parce que
c'est
aujourd'hui.
Une question d'accueil. Hein.
Bah, je ne sais pas si y a ça aussi, mais c'est. Bah oui, parce
que les ours, c'est pas facile.
Ouais. Attends, on a quand même l'impression d'être très bien accueillis aujourd'hui.
Ouais. Nous sommes des ours d'adoption.
Ouais, bah non, moi je suis un
vrai. Les vrais ours, ce sont des vrais ours.
Vous êtes plutôt des nounours, alors. C'est ça.
Ils sont adorables, mais alors il faut franchir la barrière.
Ah, en tout cas, on va faire en sorte que Saint-André devienne le nouveau Iseron de la Côte.
On voudrait bien.
Pas vraiment, hein. Doucement.
On voudrait bien, mais ça ne le sera pas.
On est tranquille ici.
Il n'y a pas photo, là.
Alors, Jocine.
Alors, moi, dans ma vie, j'ai d'abord été éducatrice spécialisée à Saint-Martin-en-Haut, donc à côté, pendant quelques années. Et puis, quand j'ai voulu fonder une famille, j'ai quitté ce métier-là pour le métier d'enseignante. Et puis, après, d'enseignante spécialisée, quand j'ai fini enseignante spécialisée. Donc, j'ai travaillé sur Irigny, Saint-Didier, Sainte-Catherine, Saint-Maurice, Soucieux, Brignais, Chaponneau. Voilà.
Eh ben merci en tout cas pour toute cette présentation. Alors maintenant, on va prendre quelques petites informations pratiques sur Saint-André-la-Côte. Alors voilà, combien il y a d'habitants, d'où vient le nom du village, et évidemment la question qu'on pose à tous les villages, est-ce qu'il y a un petit sobriquet? On l'a déjà entendu. Alors qui c'est qui va en parler de tout ça?
Alors le nombre d'habitants, dernier recensement, 268. On a un doute, mais bon, 268.
Plus petites communes de la Copamouche, oui. Riverie, oui. Ils sont un peu plus,
Riverie,
je crois.
Sont un peu plus maintenant,
tout
oui.
Tout à fait,
oui.
Tout à fait.
Voilà, après, comment est né Saint-André? Alors Saint-André, je sais que ça dépendait de Riverie, de la baronnie de Riverie.
Oui,
là, vous avez...
ça dépendait de la baronnie de Riverie, oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler ce nom de Saint-André-la-Côte?
Le nom de Saint-André-la-Côte, à vrai dire,
que ça vient de l'hibernation. Il n'y avait aucune route. Il n'y avait aucune route ne montait à Saint-André-la-Côte. Ce n'était que des chemins de terre. Donc, les ours, l'hiver, avec la neige, parce qu'à l'époque, tu te souviens de la neige.
Ah oui, les hivers n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, bien sûr.
Hein. Et depuis le Moyen-Âge, ça s'appelle comme ça, hein, depuis le Moyen-Âge. Eh bien, les ours, on les voyait quand ils sortaient au printemps.
Mais oui. Et on dit la côte. Pourquoi la côte? Parce pour accéder au village, il nous faut toujours monter.
Toujours
dès
monter.
Dès que vous commencez à descendre, c'est plus la côte. Hein. Donc,
là, il y a pas photo, c'est la là. Côte dans l'autre sens.
Alors, on confirme que pour venir à Saint-André-la-Côte, il faut prendre son temps. Il ne faut pas rouler trop vite. Voilà, il faut respirer. Et en effet, ça demande une démarche pour venir à Saint-André-la-Côte.
Montez quand il y a la canicule en bas, vous allez voir. Arriver dans le bois, vous ouvrez les fenêtres de la voiture.
Oh là là,
on n'a jamais
le bonheur.
Jamais chaud. Ici, non, c'est vrai.
On n'a pas de
canicule. On est réchauffé par les
ours. Moi, les copains lyonnais, ils m'appellent, ils me disent « T'es là-haut ?» Oui, en pleine canicule à Lyon. « On vient, mais allez, venez, montez. »
Vous voyez, ça va commencer à venir, vous allez voir tous les badauds lyonnais qui vont venir.
Non, on n'en veut pas trop. Hein.
Oui, parce que dans les
tourisme
années,
doux.
Dans les années 60, il y avait seulement 180 habitants, hein, alors qu'aujourd'hui, il y en a 260 et quelques. Hein. Donc, vous voyez,
mais
ça quand même
il y a quand même eu une époque où il y avait deux hôtels à Saint-André.
Ah, oui.
Et sept bars.
On a même lu qu'il y avait 17 hôtels, même à un moment donné, il y a très longtemps.
Très longtemps. Ouais. Ouais. Et je pense que tu es un peu de Marseille, hein, quelque part, de
non.
dire ça.
Non,
c'est
mais 7, oui, 7
ou parts. Peut-être, j'ai mal
oui,
lu.
7, oui.
Bon, et alors, les ours, donc d'où ça vient ce sobriquet?
Moi, je dis que ça vient de l'hibernage. Ils sortaient quand la neige, hop, voilà. Ou alors, il y avait une mémé. Il y a longtemps, j'adorais écouter les grand-mères, et elle m'avait dit que dans des temps très anciens, il y avait beaucoup de troupeaux d'oies et des gardiennes d'oies. Et les oies en patois, ça se prononçait les ous. Alors, sa conviction profonde, parce qu'elle n'aimait pas qu'on dise qu'ils étaient des ours. Alors, sa conviction profonde, c'était de dire ça venait des gardiennes d'oies.
Ça, oui. Hein.
Alors là,
chacun choisit.
Chacun fait comme il veut. Hein.
C'est très mignon.
Ah, ouais, chacun fait comme il veut. Ouais.
Et juste, Jocelyne, comment on appelle, on va dire de façon plus administrative, les habitants de Saint-André-la-Côte?
Alors, je crois que c'est les Saint-Andrésiens.
Les Indiens, les Saint-Andrésiens.
Saint-Andrésien.
Mais jamais on le prononce.
Mais on dit jamais.
On n'entend jamais ça.
Jamais, on dit les autres.
C'est les étrangers, qui pourraient peut-être, les étrangers qui pourraient peut-être prononcer ce mot-là, mais nous, on, ouais. pour nous, c'est les ours. Ouais. Hein, y a pas,
non, c'est les ours.
Ça sortit à ça. Hein.
Nous, ah, mais adore, moi, je suis un ours.
On adore poser cette question parce qu'en fonction des villages, les sobriquets sont plus ou moins revendiqués, acceptés. Les provenances du sobriquet sont tout à fait personnel, souvent absolument. Pas tout à fait partagé. Enfin, on trouve sa propre
mais
raison.
On retrouve les ours dans notre blason.
Alors justement,
oui.
Michel, tu co-animes là, t'es trop forte. nous, on aime bien les blasons aussi parce qu'on trouve
on l'a fait il n'y a pas longtemps. Hein.
Alors c'est intéressant parce que justement, c'est un peu le symbole de ce qui compte pour les habitants. Alors décrivez-nous ce blason qu'on a nous sous les yeux. Alors c'est pas très radiophonique.
Il y avait la description dans un bulletin, j'aurais dû le partage prendre. Partage des eaux.
Alors, qu'est-ce que c'est finalement ? Donc, on a nos croix ours tout en haut.
Croix de Saint-André, croix du Signal.
Alors, voilà. On a tout en haut sur
les
fond
trois
jaune.
Ours, c'est la famille ours.
Trois ours, pourquoi trois ? Vous savez ?
Parce que c'est une famille.
C'est une famille. On avait choisi au-dessus de un, c'est une famille. Hein.
On avait choisi comme ça.
Et ensuite, on a une.
Papa, maman et, et l'enfant.
Et l'oursonne.
Ensuite, on a la croix tout en bas, la croix. Alors, cette
du
croix,
signal.
Du signal.
Signal. Mmh. Ok. La croix. Et ensuite, on a.
La ligne de partage des eaux.
Ah,
et c'est comme un partage des eaux et qui représente aussi la croix de Saint-André.
Aussi.
Si on prend le saint, Saint-André, ouais, il a une croix.
La croix de Saint-André, comme vous ça. Savez, c'est celle qui vous donne la priorité sur la route.
Ah,
la croix de Saint-André.
Un peu comme un 6 multiplié.
Dans le code de la route.
D'accord. Donc, nos ours, les croix, on va dire, et la ligne de partage des eaux. Donc ça, on va y arriver aussi, parce qu'évidemment, ici, on a quelque chose de puissant. On n'a pas de commerce, de ce que j'ai cru comprendre.
Perdu, les pas uns encore. Après les autres.
Pas encore.
Ça reviendra, peut-être.
Oui, c'est vrai, c'est un projet.
Ça va revenir. Alors, peut-être pas un commerce en commerce, mais un restaurant, un bar.
Pas un supermarché.
Il n'y aura pas de supermarché, hein, de Carrefour, non,
le
non.
Le petit casino de
McDo. Non, non, non. Non. Mais voilà, la mairie non. a comme projet de réhabiliter une ancienne ferme.
En face.
Et dans cette réhabilitation, il y aura peut-être, c'est encore, voilà, ça dépend des subventions,
oui,
un métier de bouche.
Parce que
d'accord, donc c'est un projet. Parce que je précise, ici, là, on est chez toi, Michel, et on est dans une ancienne
auberge
qui a existé
qui a tenu. C'était épicerie aussi, moi je l'ai connue, épicerie.
Oui, bien sûr.
Et c'est un lieu incroyable parce qu'on est devant un zinc, oui. comme on dit, un bar.
C'est pas le bar d'origine.
Alors,
hein.
Non.
C'est le bar que j'ai trouvé, moi, c'était un tout petit bar en formica qui était ici, là, ici. Où
ouais,
on
ouais,
est,
ici.
Là,
voilà,
comme
ouais,
ça,
là,
comme
ouais.
ça. Et là, il y avait l'épicerie. Et là, il y avait l'épicerie. La porte de l'épicerie, elle est là.
Une petite marche.
Et la porte de l'épicerie, là, il y avait un mur.
Et à la fois aussi, c'était la poste.
Ah oui,
le dépôt de pain, la poste, il y avait tout ça.
Marinette Bouqui, et la famille ouais. Bouqui et Advinance.
Et le téléphone public à la fois. Donc. Vous veniez tourner la manivelle pour téléphoner.
Derrière vous, il y a un four à pain. C'est dans ce four qu'on faisait le pain du village.
Ah oui, donc c'était vraiment multifonction.
Multifonction,
oui. Parce qu'il est très bien placé. C'est vrai que cet endroit est très bien placé parce qu'il est,
il est
à équidistance de tout le village.
Bien sûr. Centrale, l'église, la mairie.
Ouais. Donc tu t'es bien placé. Hein. T'es bien ici, t'es bien placé.
Je suis très bien.
Et t'as recréé.
Je surveille tout et je surveille ce qui va se passer.
Ah, c'est ça. Et tu as recréé un bar, donc.
Oui. Donc j'ai racheté un bar et j'ai recréé un bar, le bar qui est ouvert copains. Quand je suis là pour les amis.
Pour les copains, ça on adore. Oui, alors donc on n'a pas encore de commerce, mais ici on va parler un peu environnement, sport, on va parler du signal, le fameux signal. Parce que pour ceux qui aiment la marche, pour ceux qui aiment le vélo, c'est vraiment le point culminant auquel on hésite dans le pays mornantais, auquel on hésite à s'attaquer. Moi, je fais du vélo et je n'ai jamais encore osé venir jusque-là.
Ça grimpe
énormément. Alors, est-ce que... Bah, ça ne s'appelle pas Saint-André-la-Côte pour rien. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire, cet endroit, et aussi nous dire d'où vient ce terme de signal ? Est-ce que vous savez ça ?
En fait, la croix du signal, elle a été érigée en un premier temps en 1914.
Avant la guerre.
Et en 1914, les hommes, ils sont tous partis. Quand ils sont revenus, malheureusement, il en manquait beaucoup. La 3 n'était pas terminée, n'avait pas encore été inaugurée. Donc ça s'est terminé après la guerre de 14. Inaugurée aussi également après la guerre de 14. Et le signal, l'appellation le signal, hein, pour prendre en 10.
C'est le plat du foin, ça.
Là-haut, parce que
le plat du foin.
On peut faire des signaux là, à partir de là-haut, vous pouvez faire des signaux
à
tout l'environnement, si vous voulez.
Peut-être d'assigner le signal, le signe pour faire la carte géographique.
Parce que là-haut, signal justement, vous n'êtes jamais monté. Le jour où vous allez y accéder, vous allez voir, il y a Cassini. Ça a été un géologue dans les années 1800.
Louis XV.
Il était géologue et c'est à partir du signal là-haut, qu'il a
fait les premières cartes d'état-major.
Toute la configuration de toutes les premières cartes de la région. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à partir de là-haut, je crois qu'on doit voir au moins 15 ou 16 départements.
Par temps clair,
bah bien sûr, évidemment.
C'est ce qu'on a lu, c'était une forme de borne, de repère, qui permettait de quadriller avec d'autres bornes sur les autres monts typiques pour créer la carte.
Ouais. Sur les anciennes cartes postales, on voit bien que le signal, il y avait la végétation, elle n'était pas celle d'aujourd'hui, il n'y avait donc pas d'arbres. Et à partir du haut, le point le plus haut, là-haut, donc où il y a l'antenne aujourd'hui, et aussi Cassini, parce que j'ai vu, je suis allé cette semaine, ils ont reconstruit
la pierre.
Ils avaient reconstruit la pierre, merci beaucoup. Ça faisait longtemps que je le demandais. Et là-haut, donc, notre géologue de l'époque, il avait donc la vue à 360 degrés pour pouvoir, donc, ces cartes qu'il a pu concevoir.
Quadriller la région.
Et il s'appelle Cassini. Ouais. Et il y a aussi, un petit descriptif de ce monsieur-là, qui est là-haut, à coller.
Cassini de Turin. Oui,
c'est vraiment chouette.
Carte d'état-major.
Alors, si vous n'êtes jamais monté en vélo, faites-le. Parce que
prenez des vitamines.
Je m'entraîne tous les jours.
Si on est encore dans le sport, il faut savoir aussi que le Saint-Élion.
Montez déjà.
Saint-Élion VTT et Saint-Élion course à pied. Passe aussi par le signal.
Exact, La Saint-Élion, alors c'est vrai que pour tous les gens de la région, quand on parle du pays mornantais, quand on parle de Soucieux, quand on parle, moi j'habite à Soucieux-en-Jarret, tout le monde me dit, ah oui, la Saint-Élion, tout ça. Donc j'avais pas en tête que ça passait. Alors c'est vrai,
par le signal.
Ça doit être.
Donc ça, les organisateurs, ils font pas dans le détail.
C'est pas de tourpeau.
Il faut qu'ils en chient.
C'est pas ça, mais.
En tout cas, pour prendre les vitamines, maintenant, Michel, on sait où s'arrêter.
Ah
c'est ça, juste avant.
Je vous en donne, s'il faut.
Alors, si tous les gens de la Saint-Élion s'arrêtent ici, t'es mal. Alors donc, cette ligne de partage des eaux aussi, parce que je sais qu'il y a le GR7 qui passe et qui symbolise, qui symbolise aussi cette ligne de partage. Ça veut dire qu'en gros, d'un côté, on va vers la Loire.
Et l'autre, le Rhône.
Voilà.
C'est ça.
Et donc, ça symbolise aussi un endroit, une forme de frontière.
Toi, Jocelyne, est-ce que tu es sur le côté versant pour ce qui est des eaux usées?
Ton toit est par où, l'eau?
Tu ne sais pas, tu l'ignores.
Non, je sais que notre source, je crois que c'est l'eau du Pilat.
Ah,
je crois.
La source. Elle va vers le Pilat.
Ouais. Non, mais la source, parce qu'ils ont une source. Mais le verse, parce que cette dame, elle habite sur le versant côté Atlantique, alors que nous sommes versant côté Méditerranée, nous. Ouais. Donc, on s'imagine.
Méditerranéen,
nous. On est Méditerranéen. Hein. Ouais. On va vous la chanter, Méditerranée.
Donc, tout de suite, ça sépare, tempérament. On n'est plus les. Il y a les ours de. Du sud et les ours du nord.
Les ours gris et les ours bruns, quoi, si on veut.
Bon, en tout cas, évidemment, le signal à Saint-André-la-Côte, on invite tous les auditeurs à venir. Il faut y aller.
Vous avez une table d'orientation, d'autant. Hein.
Oui,
alors donc, ne serait-ce qu'avec la table, ça va vous donner pas mal de points de repère.
Et
de là-haut, vous avez le Mont-Blanc, qui, bien sûr, toute la chaîne du Mont-Blanc. Alors, qui part en clair, c'est magnifique, ça, vous avez pu le constater.
Montez les paniers pour pique-niquer.
Vous montez avec les gamins et les paniers de pique-nique. Les gamins vont faire des cabanes.
Ah ouais, beaucoup de cabanes,
Il y en a beaucoup, donc ils s'approprient les cabanes.
Il y a des rochers, ils peuvent
vous passez la journée.
Rochers,
Mais en venant ici, on a vu pas mal de touristes déjà, malgré le temps. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui vient régulièrement.
Oui, puis il y a l'application d'Eniolus qui marche beaucoup.
Voilà, avec l'office de tourisme. En tout cas, si demain il y a un restaurant, une auberge, quelque chose qui s'ouvre ici, vraiment, ça marcherait.
Vous rendez compte, l'appellation, le plus haut restaurant implanté du Rhône, ça serait...
Les Monts du Lyonnais, donc, en fait.
Vous rendez compte, celui qui s'installe là, la pub?
Michel, elle sait faire.
Avis au grand cuisinier, s'il vous plaît.
Ah oui, ça serait bien.
S'il vous plaît.
Ça serait bien, en tout cas. On a beaucoup parlé du signal, mais à quelques pas d'ici, on peut trouver aussi
la croix du père Rotagnon, qui fut au cœur d'une des prophéties du grand Quinçon.
Le grand Quinçon de la Filonnière.
Voilà, le Nostradamus du pays mornantais, en effet.
C'est Michel qui va vous en parler, hein, parce que t'as beaucoup travaillé sur ce...
Sur le grand Quinçon, ouais, moi Quinçon, j'adore les dingues. Ouais.
Alors Michel, vas-y, raconte-nous, parce que c'est vrai qu'on a...
Mais il montait sur un rocher...
Il montait de Saint-Didier déjà.
Il montait de Saint-Didier à pied. Il s'installait sur un rocher et alors ça partait et tout le monde écoutait. Alors parfois il partait dans des délires complètement. Et il s'est avéré que quelques-unes, je ne sais pas lesquelles exactement, mais je crois qu'il a prédit la guerre de 14.
Oui.
Qu'est-ce qui te fascine dans cet homme-là? Ben en dehors de sa folie,
c'est que c'était un homme, comment dire, de la terre, qui n'avait pas de grande culture, pas beaucoup allé à l'école, mais il s'exprimait assez bien, paraît-il, puisque les gens l'écoutaient avec attention. Donc ça veut dire que quand même il avait un certain charisme quelque part, je pense. Je n'y étais pas, hein. Mais je pense qu'il avait un certain charisme. Alors, les gens l'écoutaient. Alors, j'avais un peu regardé ça. C'est pour ça que j'avais appelé le bar la Quinçonnette.
Bah oui, bien sûr.
Bon, il y avait deux doubles. Il y avait le grand Quinçon et puis il y avait Quinçon, la chanson. Puisqu'on chantait beaucoup, je faisais venir des chanteurs. Voilà, quand j'avais ouvert le bar aux amis.
Vous êtes amateur de chansons aussi, on a cru comprendre. Dites-nous en plus, parce que nous, c'est notre truc, la chanson. Alors,
chaque fois que je faisais une soirée, voilà, je cherchais un chanteur ou une chanteuse. Mais toujours. Parce que je voulais de la musique. Hein.
Ah ouais, bien sûr. On est des années 60. Voilà. Alors, les années 60, ça veut dire qu'on est des yéyés. On ne l'est plus maintenant, mais on l'a eu été. Donc, ce qui fait qu'il nous fallait, autour de nous, il nous fallait de la musique. Hein.
Des instruments de musique, des chanteurs.
Tu aimes écrire des chansons.
Les
gens que j'aime, ils ont droit à leurs chansons.
Voilà, oui.
C'est donc tu écris des chansons inspirées par les visites des copains, les moments festifs.
Par la vie des copains, voilà.
Sur leur vie.
Oui, carrément, ils y ont droit.
Ah oui.
Ici, là, t'en as bon nombre là ici. T'en as bon nombre de chansons.
Alors, Gérard nous montre un gros livre qui contient des photos.
La Redoute, ça n'a rien à voir à côté de ça.
La Redoute.
Des photos, des chansons, donc c'est ça qui contient aussi des chansons.
Je prends un air, comme je ne suis pas musicienne, hélas.
Oui, mais tu chantes bien quand même.
Mais alors je trouve un air qui convient à la personne à qui je m'adresse, et je mets des paroles dessus.
Tu l'adaptes.
Alors un peu parfois loufoque, mais
toujours bien senti.
D'accord, donc tu ne mets pas forcément des gens de Saint-André-la-Côte,
tous mes amis. Ouais, j'ai dû écrire, je sais pas, 150 textes.
Ah, quand même. Il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir en faire quelque chose, ça.
Non.
Il va falloir réouvrir le bar.
Mais j'ai créé un tango sur Saint-André-la-Côte.
Ah,
j'ai créé un tango.
Oui, très beau tango. Si.
Tu l'as en tête?
Bien sûr que tu l'as en tête.
Oui, ben
je
ne
sais pas si je m'en souviens. C'est un petit village niché entre deux monts. Il domine un nid d'aigle, cette belle région. La pousse, blé, maïs et beaux fruits de saison. Les hivers sont rudes, le ciel pleure des flocons. Alors, on se réchauffe autour d'un feu de bois, dans l'attente du printemps qui verdit champ. La loi, la bise vous soufflette et ravive le teint. Les enfants au jour rouge courent par les chemins. C'est un petit village qui porte haut son nom. André, fidèle apôtre, en est le saint patron, qu'il veille depuis des siècles sur ses bâtisses de pierre, qu'il reste vigilant, ce frère de Saint-Pierre. Alors, longtemps encore, contre vents et gelées, ils brilleront là-haut, les feux de Saint-André.
Bravo Michel, bravo, vous imaginez hein, la mémoire, c'est une mémoire phénoménale. Vous allez la voir dès la semaine prochaine dans N'oubliez pas les paroles.
Sûrement, oui.
C'est ça.
Oui, N'oubliez pas les paroles.
N'oubliez pas les paroles de Saint-André.
C'est Saint-André, N'oubliez pas les paroles.
Alors là, et belle voix. Hein.
Ah oui, belle voix.
Belle, beau talent d'écriture. Ah si, écoute, nous sommes des professionnels, on peut en témoigner.
C'est gentil, alors ça fait
très jolie voix.
Alors moi, j'en ai une aussi pour Michel, toujours dans l'esprit tango. Je vais vous la chanter, mais rapidement.
Vous êtes là pour deux heures.
C'est le tango des jonquilles, le tango de la jeune fille. On lui offre une fleurette, vous voyez. Donc ça, c'est dans les.
Ça, c'était les paysans, années... les vieux paysans qui chantaient ça.
Et alors, Chantalois, c'est aussi un.
Chantalois,
un
c'est le petit bois qui est au-dessus.
Qui est au-dessus. Ouais.
Au-dessus du village aussi. Au-dessus face au signal.
Est-ce que ça a un rapport avec le Châtel ou pas
non.
du tout
Non,
le
Châtel,
non,
sur l'autre côté.
C'est encore un. En fait, si vous voulez, il y a trois monts principaux, le signal, le Chantalois et le Châtel.
Et le Châtel.
Ah, okay. Et le Châtel.
Ok. Grand moment, un grand moment. Pour nous, ça fait vraiment le lien entre. Tu vois, t'es au cœur de notre sujet, entre le patrimoine,
finalement,
l'amour de sa terre,
oui, de sa terre.
La chanson,
c'est bien écrit, en tout cas.
La légèreté, tu vois. Ah, c'était magnifique, merci. Du coup, bon, tu nous as fait partir là dans
oui,
des sphères
dans
pas possibles.
Oui, dans le tango, là.
C'était beau, et puis il ne manquait plus que le tempo, là. Donc j'étais à deux doigts de faire la beatbox.
Bah, pour un peu, on allait. Et Jocelyne,
on allait danser.
Recommence, on va danser le tango avec Jocelyne.
Non, alors, parlons,
on pas le temps, on
parlons
pas le temps.
En mots parlés, non pas en mots chantés. On a toujours quelqu'un qui marque un peu l'esprit du village. Mmh. Alors ici, est-ce qu'on en a un?
On en a eu plusieurs.
Le père
Fléchet,
non?
D'abord, attends.
Elle parle de curé.
Là, je parle du curé.
Le curé Garel, curé. Notre père curé Garel qui avait fait la guerre de 14, il était médecin. Donc il est allé au front probablement, mais il avait peut-être pas. Donc étant médecin, et quand je puis vous dire quand il est revenu de la guerre, eh bien avec lui, les paroissiens du village, ça marchait droit, je puis vous dire. Parce que il était gradé à la fois. Officier et médecin. Alors là, moi, j'ai été enfant de cœur avec ce brave homme. Et c'est là d'ailleurs où j'ai appris à boire. On se cachait derrière pour boire le vin blanc, pour finir les burettes quelque part. On finissait les burettes. C'est vrai, non, mais tout était vrai. Hein. Et j'ai beaucoup de souvenirs. Et en plus de ça, le canton de Mornan, puisque Saint-André-la-Côte a toujours fait partie du canton de Mornan, il lui avait offert une voiture, c'était une Prima 4, une Renault, une vieille Renault, et il nous emmenait promener, nous les enfants de cœur. On était ravis parce que c'était la seule voiture qu'il y avait au village, vous imaginez, le curé Garel qui avait une voiture, parce qu'il était à Rivry, ce brave homme, curé à Rivry, et il avait sa seconde paroisse à Saint-André-la-Côte. Et voilà, donc, mais. Ça a été un personnage. Et moi, je me rappelle toujours, mais ça, je peux vous dire, c'est véridique. Quand il prêchait donc sur la chaire dans l'église, et quand il avait quelque chose qui collait pas avec ses paroissiens, il l'envoyait pas dire, et il se frappait sur la poitrine comme ceci. Là, on aurait dit un tambour. Je peux vous dire, mais ça, je vous assure, ça m'a marqué, moi. Gamin, j'ai été marqué par tout ça. Hein. Mais bon, notre père curé Garel, il a fait comme tous les autres. Hein. Il a levé les fourches aussi. Hein. On a d'autres personnages, si vous voulez y venir, on peut en parler également. Hein. Dans la lignée de père Garel, dans les mêmes années, on avait aussi le petit Benoît qui était le garde champêtre. Alors c'était un tout petit homme.
Et
le facteur aussi, garde champêtre et petit homme. Et donc il avait la tenue du garde champêtre et il avait aussi le tambour, avec son tambour. Blablabla. Avis à la population. Et puis donc il écrivait tout ce qu'il avait à dire. C'était quelque chose.
Mais il montait à pied de Mornan par les chemins.
Mais oui, c'était.
L'hiver comme été, il y avait de la neige jusque-là.
C'était mais vraiment
petit.
Un personnage aussi, ça a
et
été un personnage.
Costume, hein.
Et puis sa femme, bien entendu, on l'appelait la Benoîte, bien
la
évidemment.
Benoîte.
Forcément, la Benoîte.
Ben
ça, c'était un personnage. Le troisième personnage dont on va parler, c'était aussi le père Fléchet. Le père Fléchet, il habitait Saint-André-la-Côte, il y avait un château. Un château, hein, je vous assure. Aujourd'hui, il a été détruit en partie, parce que donc elle a été détruite parce que la commune
les tours
pour les agrandir les tours ont été détruites. Il y avait donc deux tours pour l'agrandissement de la commune, des chemins, des voies.
Ils ont détruit
le mur d'enceinte avec le portail et tout ça. Mais ce brave homme aussi, c'était aussi un ancien de là qui avait fait aussi la guerre de 14. C'était des gens qui revenaient de la guerre et bien évidemment. Ils étaient venus ici s'installer à Saint-André-la-Côte parce que c'était quelque part d'une famille aisée qui venait de la Rajas.
Fléchet, les chapeaux.
Ouais, et aussi, ils faisaient partie de la famille Fléchet, les chapeaux Fléchet.
La chapellerie.
À Chazelles-sur-Lyon. Et sa femme, son nom de jeune fille, elle s'appelait Guillot, Madame Guillot. Alors lui, quand il appelait sa femme, il dit « Oh, la guillotte !» Donc il appelait sa femme, là. Et après, quand il avait toujours un chapeau noir, chapeau melon, il disait « Chapeau Fléchet, chapeau parfait !» Parce que donc, comme il faisait partie de cette famille, mais aussi, alors quand il avait fait la guerre de 14, et après, quand pendant la guerre, la dernière guerre, donc les Allemands qui sont venus à Saint-André-la-Côte, il s'est pris à partie avec les Allemands parce qu'il avait peur de rien. Bon, c'était un grand costaud. Ils insultaient les Allemands parce que ils voulaient les Allemands pour lui. Et c'était pas des bons souvenirs, hein, qu'il avait gardé de la guerre de 14. Et s'il n'y avait pas eu le maire de l'époque...
Ils l'ont attaché sur un char pour qu'il s'arrête.
Il n'aurait pas eu le maire de l'époque, et il le fusillait, ce brave homme, les Allemands.
Mais pourquoi le père Fléchet, c'est comme un...
Comme le père machin, le père Goriot, le père...
On aurait dit le père Lustucru, il avait un âne.
Il touchait les pieds, c'était le plus grand du village, il faisait 1,95 m, le père Fléchet. Il avait les pieds qui touchaient par terre. Il était sur son âne, mais ses deux pieds touchaient par terre.
Et quand l'âne, il a crevé de sa belle mort, il a dépouillé l'âne.
Il a gardé la peau.
Et il s'est enfilé la tête de l'âne, il se la mettait sur la tête, et il se promenait avec l'âne sur la tête d'âne sur sa tête.
C'était, il faisait peur à tout le monde.
C'est lui qui portait l'âne.
L'âne l'avait porté précédemment, et après lui, le peau d'âne. On a eu des corps.
Et quand on passait trop près de son porche, parce qu'on faisait du bruit, parce qu'on était des bandes de gamins qui faisaient beaucoup de bruit, ils nous balançaient des bouses de vache fraîches.
Ouais, des bouses de vache. Ouais.
Fraîches.
Parce que.
Paf.
Et comme
ça nous passait sur la tête.
Et comme dans le village, il y avait aussi des fermes à l'intérieur du village. Ils ramassaient les bouses de vache pour les faire sécher et ils brûlaient, au lieu de brûler du bois, ils brûlaient les bouses de vache.
Oui.
Moi, je me rappelle toujours ça.
Et ils bouchaient les trous de sa pierre.
Ah oui, ça brûle très bien.
C'est un bon combustible.
Sur son portail, il y avait un gros anneau. Hein. Et nous, on est gamins, on tapait là. Et puis on se cassait, hein, parce qu'on restait pas. S'il nous avait chopé, je ne sais pas ce qu'il allait devenir.
Il
nous faisait peur.
Il nous faisait peur avec son grand chapeau noir. Il nous faisait peur.
Ah bah oui.
Peur et rire.
Mais il nous faisait peur quand même.
Il ne parlait qu'en patois. Bonjour, Jalo. Bonjour. Il ne parlait qu'en patois. Il n'avait pas en français, il n'avait aucune conversation en français.
Ah oui.
Alors nous, on ne connaissait pas trop bien le patois.
Il parlait qu'en patois.
Alors,
c'est ça qui nous faisait peur, c'est qu'il criait, on ne comprenait pas toujours ce qu'il disait.
Tu croyais qu'il t'engueulait
On croyait qu'il nous engueulait, oui. Mais quand il nous balançait les bouses de vache, il nous les balançait bien. Hein.
Et il faisait ça pourquoi? Juste comme ça, pour rigoler comme
pour
des
nous faire partir,
comme
parce qu'on faisait trop de bruit.
Peut-être, pour lui, c'était peut-être un jeu.
Un jeu.
C'était à la fois un jeu aussi pour nous, mais nous, on fouettait.
Non,
hein.
Quelque part,
si jamais il nous chope, on va passer un mauvais quart d'heure.
Et maintenant qu'on n'a plus de neige. Ça pourrait être rigolo de faire des batailles de bouses de vaches.
Mais les vaches, elles sont plus dans le village.
Elles ne passent plus en troupeau lent dans le village.
Ouais.
Avant, on avait les pieds pleins de bouses parce qu'il y en avait de partout dans les chemins. Mais maintenant, elles ne passent plus.
Il n'y a pas si longtemps. Parce que quand je suis arrivée, il y avait encore une ferme là. Il y avait une ferme là. Il y avait Chicarret.
On les voit rarement passer. Comme avant, c'était rigolo de les voir passer dans le village. Mais elles ne passent plus.
On en profite pour en parler de l'agriculture parce que nous, on voit quand même qu'il y a encore beaucoup d'exploitations à proximité de Saint-André-la-Côte. C'est vrai, vous confirmez?
Il y a plus de vaches que d'habitants. Hein.
Ah oui, il y a plus de vaches que d'habitants.
Bon, hein.
Entre les vaches, les brebis et les chèvres.
Il y a plus d'animaux que d'habitants, c'est clair.
Donc il y a encore une belle dynamique agricole ici.
Oui, c'est agricole.
On est d'accord.
Terre agricole.
Et Doudou, alors parce que
Doudou, c'est notre personnage. C'est celui qui est encore là aujourd'hui. On aurait pu l'inviter parce que c'est aussi un personnage.
C'est notre artiste peintre.
Hein. Alors, par contre, lui, il est à la fois artiste peintre et sculpteur. Il sculpte le bois, il travaille le bois de ses mains. C'est un monsieur qui a vraiment...
Qui a beaucoup voyagé.
Qui a beaucoup voyagé. D'abord, c'était un enfant de Badass quand il est arrivé à Saint-André-la-Côte dans les années 60, 70, et qui avait été hébergé par une famille, hein, tout près d'ici.
Il était placé.
Placé. Ouais, pour placé, parce qu'il il est placé pour garder les vaches, hein, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de clôture électrique, il gardait les vaches, c'était les enfants qui gardaient les vaches. Et donc, ce doudou, il est arrivé à ce moment-là, et après, donc, quand il est parti à l'armée, l'Algérie, il a fait la guerre d'Algérie.
Il a fait 28 mois.
Il a fait médaillé, hein, il a la croix de guerre d'Algérie, il a quelque part, il a sauvé des vies de ses collègues, parce que lui, comme il savait qu'il était de la DAS, qu'il n'avait pas de famille, il était toujours en avant. Donc il se portait toujours volontaire pour toutes les missions. Et s'il est revenu aujourd'hui, Dieu merci, c'est qu'il a eu beaucoup de chance aussi. Hein. Mais bon. Et après, quand il est revenu après la retraite, ici à Saint-André-la-Côte, il s'est mis à peindre la peinture, mais il peint très bien à la fois, et il sculpte de bois. Et c'est un personnage qu'il vous faut le connaître un jour. Hein,
il faut aller chez lui parce qu'il habite dans l'ancien presbytère et c'est très particulier chez lui. C'est comme une grotte. Et quand on rentre, c'est surprenant.
La grotte de l'ours.
La grotte de l'ours d'adoption, celui-là, Doudou. Et il a des trucs qui plantent au plafond partout. Partout, des sorcières, des machins, des trucs. Il m'en a donné une de sorcière.
Ma sorcière bien aimée. Mais si tout à l'heure vous avez un peu de temps, on peut aller le voir ensemble. Hein.
Il est très rigolo.
Il vaut le coup d'être connu.
Il est très rigolo, il connaît bien la vie du village.
En fait, si vous voulez, moi, quand j'étais travaillé avec ma clientèle, hein, je les envoyais à Saint-André-la-Côte pour rencontrer Doudou. Et tous ceux qui sont venus le voir.
Ils sont surpris.
Ils sont tous revenus me dire, ah ben, ton doudou, c'est un personnage. Et ils sont tous revenus Edouard le voir Tricard, une fois, voire deux fois. Et parce que c'est quelqu'un, c'est un personnage. Et comme ça, on n'en connaît pas d'autres. Hein. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le seul, moi perso, j'en connais aucun autre.
C'est un artiste du village.
En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'à Saint-André-la-Côte, il y a beaucoup de personnages.
Ah ouais, il y a beaucoup
et
de personnages.
Et là, ici, autour de cette table, on est en plein dedans. Mais et quel bonheur.
Si vous voulez, on n'a pas le temps d'en parler, mais parce que ça pourrait durer une journée. Mais on a eu tellement de choses, d'anecdotes et autres. Le maquis Givordin, qui est venu s'installer à Saint-André-la-Côte. Le village qui a été bombardé par les Allemands. Ça aussi, c'est pas rien quand même, attendez.
Et qui c'est qui avait peint les cloches pour faire croire qu'elles étaient en plâtre?
Oui, il y en a. Pour pas que les Allemands les empêchent de les faire fondre. Non, mais bon, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais on pourrait en parler.
Il y avait aussi un puits caché pour cacher le curé au temps.
Ah oui, il y avait un puits où on cachait les curés.
Pendant la Révolution.
Pendant la Révolution française, il fallait cacher les curés.
Il y en avait deux, je crois. Il y en avait un chez Jean, mais qui
cachait les curés, il les estourbissait, les révolutionnaires.
Alors, moi, je voudrais juste aussi évoquer, parce que j'ai lu ça et j'ai trouvé ça hyper touchant, l'histoire de l'avion.
Ah, oui.
L'avion. Ah oui, l'avion. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire parce que
l'avion, c'est
un
B-17.
Américain.
Vous savez, vous le voyez, un B-17, un quadrimoteur monté avec des moteurs Rolls-Royce, je ne sais combien de chevaux, 30 mètres de long, 30 mètres d'envergure, qui scratche dans le bois du Châtel, justement, là. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ici à Saint-André-la-Côte, donc je vais avoir 80 ans bientôt, je suis le seul et unique qui connaît l'endroit.
Exact.
Demain matin, avec un gamin, celui qui voudrait bien m'accompagner, on y va avec un râteau et un piochon. Et je vais vous trouver des tas de choses encore. Par contre, ou alors avec une poêle à frire, ça sera encore mieux.
Mais t'avais pas trouvé quelque chose, toi ?
J'ai trouvé une plaque.
Oui, une plaque.
Sur laquelle, qui était montée sur un moteur avec les numéros du moteur
les
et tout ça.
Moteur.
Et avec ça, on peut même retrouver l'origine de l'avion. Hein, qui, c'était dans l'Ohio, dans l'état de l'Ohio.
Moi, j'ai gardé tous les articles des journaux.
Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait ce qui s'est passé exactement ?
En fait, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, c'était plus pendant la guerre. Hein. C'était le 13 décembre 1945. La guerre était terminée le 8 mai 1945. Les Américains, ils étaient basés à Lyon-Bron. Il y avait une base et puis il y avait des bases par ailleurs. Et bien évidemment, comme ils avaient participé à bon nombre de bombardements sur l'Allemagne et peut-être aussi sur les côtes atlantiques, et bien donc ils étaient toujours là. Ils étaient encore en mission. Ils n'avaient donc pas quitté le territoire français. Ils étaient en mission. Et ces braves gens, l'avion, c'était un soir. Il faisait très froid. Le 13 décembre 1945, il cherchait pour se poser à Lyon-Bron, et à cause du brouillard, il a tourné en rond, et il a touché la forêt. Et comme l'avion, quand le pilote il s'est rendu compte qu'il touchait la forêt, il a cabré l'avion, et l'avion donc il s'est coupé en deux, et toute la partie arrière, eh bien, il s'est enflammé. Ils ont tous été
décédés.
Ils étaient 8. Et il y en a eu 3 survivants. Le pilote, le copilote et le mécanicien, les 3 qui étaient à l'avant. C'est curieux quand même dans un avion qui se crache, hein. C'est sûr, parce qu'il s'est cabré comme ça.
Il s'est coupé.
Voilà. Ouais.
Et aussi l'histoire, c'est que en 2005, on a lu que un des Américains.
Oui, ils sont
voilà. Ah bah moi, j'étais présent, moi. Un des Américains. Oh, d'ailleurs, je l'ai pas. Il parlait anglais ou américain. Moi, je parle ni l'un ni l'autre.
Je sais plus et qui c'est. Sa qui
famille.
La traduction.
Il y avait toute sa famille. Bah, il y avait de ses enfants, ses enfants. Oui. Il y avait ses petits enfants qui sont venus de, l'État du Texas. On aurait dit JR dans le feuilleton JR avec un grand gaillard. Mais ça, c'était le copilote parce que le pilote, il était mort précédemment. Donc le copilote en 2005, il était encore là. Ils sont venus avec une délégation de Paris là, avec des officiers américain de Paris, et il y a eu une réception qui a été avec au monument aux morts, parce que il y a au pied du signal, il y a à la fois un monument pour la plaque, pour les maquis givordins, et à la fois aussi pour ces Américains qui sont morts pour la France, parce que il y en a qui disent non, ils étaient plus, la guerre était finie, ils sont morts accidentellement,
ou ils se
baladaient. Mais non, ils étaient là, ils ont combattu, c'était des jeunes, hein, des jeunes gens qui ont combattu pendant toutes les années de guerre, et malheureusement pour eux, la guerre étant finie, ils sont venus mourir à Saint-André-la-Côte, c'est quand même quelque chose, hein. Donc on peut avoir beaucoup de respect pour ces gens-là, pour ces garçons.
La sensation qu'on a, en fait, c'est que tu parlais de cet avion, là. On pourrait entendre cette histoire comme dans l'Himalaya. Tu sais, il y a un avion qui est tombé.
Bah ouais,
comme ça,
ouais.
On a entendu ces histoires plein de fois. Mais là, c'est à Saint-André-la-Côte. Ici, on a l'impression d'être vraiment dans un village presque de montagne, un village montagnard un petit peu. Non, mais on essaie de comprendre d'où vient cette folie, là, ambiante et tout. Alors, on a l'impression que ça vient un peu quand même de l'excès d'oxygène, d'air pur.
Ça attaque beaucoup les neurones.
Blague à part quand même, tout au long de la vie du village, ce côté perché, tu vois, c'est
perché,
le bon mot finalement,
c'est
perché.
Le bon mot, perché.
Ce côté perché, il a accueilli, tu vois, des accidents, il a accueilli...
Il y a même Depardieu qui s'est posé en temps de brouillard avec son écho.
Ah, ça, c'est aussi l'histoire.
Il mangeait le saucisson.
Pour manger le saucisson, il connaît les bonnes adresses.
Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu, cet idiot.
Tu vois, non mais...
Il est parti voir Poutine après, donc il peut...
Il y avait des choses importantes. Mais il y a aussi les gens qui venaient soigner, on a lu.
Oui.
Qui venaient soigner de Lyon.
C'était une très bonne altitude pour les respirer. D'ailleurs, le médecin de nos familles, notre médecin de famille, disait toujours à mon père, si vos enfants passent des bons mois sans être malades et tout, parce que c'est vrai qu'on était costauds, c'est... grâce à Saint-André-la-Côte.
Voilà, et donc toi, c'est là, comme ça, tu venais en vacances au début.
Voilà.
Donc il y a ça aussi, c'est aussi ce qui fait beaucoup l'identité. Vous confirmez ça?
Mais c'est ici même qu'ils venaient soigner à l'hôtel Advidan, avant.
Mais
Michel,
il y avait les chambres,
Bouquet,
les gens venaient là.
Et avant, c'était Advidan. Ils avaient un hôtel, et ces personnes, donc, ils venaient de Lyon, parce qu'ils n'allaient pas en cure nulle part par ailleurs, ils venaient à Saint-André-la-Côte, c'était proche de Lyon, et à la fois, c'était en altitude. Donc,
et en même temps, en altitude.
C'était le top, à la fois.
Et là, en plus, comme tu disais tout à l'heure, par nos temps chauds de réchauffement climatique, on peut en plus venir s'y mettre au frais.
Tout à fait, on est bien l'été, là. Ah, on est bien.
Oh là là.
Oh, qu'est-ce qu'on est bien.
Et c'est un peu plus près qu'Iseron pour tous ceux du plateau Bordentais. On est très vite là,
en fait.
Vite
là, Mornant.
Ouais. Et moins repéré, moins connu. Donc c'est ce qu'on cherche aussi, c'est les trésors cachés. Voilà. Oui.
On veut pas la foule, nous.
Oui, on a compris. Donc t'inquiète pas, on ne diffusera pas au-delà des frontières françaises. Ne t'inquiète pas.
On avait pensé
On
avait pensé à faire un protectorat, mais bon.
Ouais. On voulait les portes,
monnaie et tout.
Les portes de Saint-Martin, portugais. Et on bouche avec des herses.
Parce qu'en fait, il y a trois
Elle
entrées.
Parle beaucoup avec les mains.
Il y a trois entrées,
si on pourrait dire. Il y a trois portes.
Il y a trois portes.
Saint-Martin-Haut, Rivry et Mornan.
Tout à fait.
Saint-Sorlin.
Trois portes. On voulait mettre des avec des herses qu'on baisse.
Et puis faire payer.
Quand on en a marre.
Et faire payer la dîme surtout. Parce qu'on n'est pas riche si on a besoin.
La dîme, la gabelle, la tout le cas de toi.
Tout. Oui. toutes les taxes. Bon, alors vraiment incroyable. On est très, très heureux d'avoir passé ce moment comme ça, voilà. Perché en votre compagnie, dans cet endroit vraiment
Si on peut
incroyable.
Vous être utile, on est là.
Extrêmement chaleureux, extrêmement...
Vous n'avez même pas goûté un bout de gâteau.
Si, t'inquiète, on y arrive. Avec grand plaisir, on était concentrés, pendus à vos lèvres. Donc jusque-là, on n'a même pas vu derrière le
gâteau.
Donc en tout cas, Michel, oui, Gérard, Jocelyne, un grand merci pour cette balade oxygénante, j'ai envie de dire,
vraiment
revigorante, sur les pentes de Saint-André-la-Côte. Alors, comme tu disais, Gérard, on pourrait en parler des jours et des jours et des jours.
Oui.
Mais notre temps est
nous
forcément
est
un petit peu cadré.
Oui, mais attendez, le temps qui nous est compté, c'est surtout à nous, parce que vous êtes jeunes, vous avez encore des bonnes années devant vous, alors que nous, les années, elles nous sont comptées.
Oui, il faut qu'on s'accroche. Oulala.
Sur les pentes de Saint-André-la-Côte. Alors, voilà, donc on sait qu'on pourrait encore parler longtemps de votre cher village. Mais bon,
il y a plein de poèmes sur le village.
Alors,
est-ce
que là, ce qu'on aimerait, pour finir, il nous reste 2 minutes, est-ce que vous pourriez nous faire soit un mot, soit une phrase, soit un vers, soit un poème. Chacun à votre tour.
C'est Michel qui va nous faire ça, parce que Michel, comme elle est à la fois poète,
je ne sais pas par cœur.
Elle va nous résumer ça pour nous trois là. Elle va nous faire ça. Vous allez voir en deux.
Tu nous fais en deux minutes pour finir le podcast. Un joli
mot. Ça s'appelle, parce que nos monts, ça s'appelle les monts du soir. Et dans les temps anciens, on les appelait les têtes noires. Quand on montait de Mornan, par exemple, on voyait les monts, on disait c'est les têtes noires, les monts du soir. Alors à l'aube, au crépuscule, il faut venir les voir par les routes qui serpentent près de Sainte-Catherine et qui font l'escalade des côtes de Saint-André. Les lumières changeantes sur les flancs des collines jouent avec le soleil qui réchauffe les prés. Les teintes chatoyantes qui marquent les saisons ne peuvent qu'enrichir la palette des peintres. En tunnel de verdure ou bien comme en beau cintre, les arbres de la route s'inclinent sur votre passage pour vous tenir au frais. Au détour d'un virage, voici le vieux village et ses belles maisons chargées d'histoires anciennes et de fleurs à foison. Ils tentent de résister au temps, à ses caprices. Connaissez-vous les monts du soir? À l'aube, au crépuscule, il faut venir les voir, mais sans les déranger, en respectant le site, dans le respect des lieux et de ceux qui l'habitent.
Cette causerie a été réalisée par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la commune de Saint-André-la-Côte et la communauté de communes du Pays Mornantais.